Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique. Notre invitée cette semaine, la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en poste depuis un an et demi, depuis la nomination de Manuel Valls à Matignon. Vous êtes l'une des trois ministres estampillés radicales de gauche au sein du gouvernement, élue de Saint-Pierre et Miquelon. Au sommaire de cette émission, le développement est-il une clé de la crise migratoire? Et cette crise migratoire est-elle aussi une crise européenne? En France, sauf qui peut au PS à l'approche des régionales, comment va la gauche? Pas très bien. Division, dispersion, disparition. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. À mes côtés dans ce studio pour vous interroger pendant 40 minutes, Laure Breton de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Et Marc Perelman de France 24, bonsoir.
Bonsoir.
La crise migratoire et l'Europe qui réussit finalement à s'entendre pour accueillir 120 000 personnes, pour se répartir 120 000 réfugiés de guerre. Alors est-ce qu'il y aura un mécanisme obligatoire sur la base du volontariat? Écoutez la mise en garde que faisait François Hollande dimanche soir.
Nous veillerons à ce que le mécanisme soit effectif, quelles que soient ses modalités, et que les engagements puissent être tenus, et que ce ne soient pas les mêmes pays qui reçoivent les réfugiés. Cette répartition, elle doit être de tous les pays européens. Aucun ne peut s'exonérer. Ou alors nous n'appartenons plus au même ensemble fondé sur des valeurs et des principes.
Voilà, François Hollande, c'était au Maroc dimanche soir. Jean-Claude Juncker, ce matin, le président de la Commission européenne disait « Nous sommes ridicules ». Finalement, les ministres de l'Intérieur, après un vote à une large majorité, se sont mis d'accord. Est-ce que l'Europe a sauvé l'honneur ce soir ?
L'Europe s'est mis d'accord sur un plan de répartition. Un plan de répartition de l'accueil des réfugiés. Mais vous comprenez bien que cette question des réfugiés, vue du point de vue de la secrétaire d'État au développement, c'est surtout et avant tout le soutien au développement des pays d'origine.
Alors, on y viendra, Annick Girardin, sur cette question propre au développement, mais restons sur cette crise migratoire, ces réfugiés de guerre qui principalement viennent de Syrie et d'Irak. On a quand même mis des jours, des nuits de négociations pour un chiffre, 120 000 réfugiés qui peut paraître un peu dérisoire et même dépassé au regard de l'afflux massif de personnes qui sont arrivées notamment en Allemagne. Quelle leçon vous tirez de cette séquence sur l'Europe, sur l'idée européenne? Certains ont dit, finalement, l'idée européenne est en train de mourir de ses égoïsmes, comme on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines.
Alors moi, je suis une radicale de gauche, et vous savez quel est le message que nous portons. C'est-à-dire que nous estimons que sur l'Europe, on n'est pas allé assez loin. Où est l'Europe de la protection, l'Europe sociale, l'Europe qui est auprès de ses citoyens, l'Europe qui rassure, l'Europe qui intervient, l'Europe qui est solidaire, et nous sommes pour, effectivement, une Europe fédérale. C'est le grand débat. Aujourd'hui, on va plus loin ou pas au niveau européen. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il faut aller beaucoup plus loin si on veut une Europe beaucoup plus forte. Et cette crise de la migration ou de l'accueil des réfugiés, je pense, sera un déclencheur de soit plus d'Europe, ce que moi je souhaite, soit effectivement
vous attendez un sursaut
tout à fait,
de cette crise.
Tout à fait, et j'en suis persuadée, et on le voit.
Marc Perelman de France 24.
Mais cet accord, on l'a dit, c'est une majorité. Large, certes, mais c'est une majorité, il n'y a pas unanimité. Il y a certains des pays, on sait lesquels, notamment ceux d'Europe centrale, qui se sont prononcés contre. Donc, c'est une solution partielle, parce qu'on sait très bien que si ces pays ont voté contre, et tant qu'il n'y a pas de mécanisme obligatoire, ils ne se sentiront pas obligés par ces décisions. Et donc, on a peu progressé ce soir.
Alors, on a peu progressé. D'un autre côté, on a bien vu que les opinions publiques, et c'est important, ont beaucoup bougé. Une vraie solidarité qui s'est exprimée, y compris ici, effectivement.
Pas dans ces pays-là.
Non, y compris ici, effectivement, en France. Et moi, je crois en la force des citoyens pour faire bouger, effectivement, aussi leur gouvernement. Au-delà des moments où on peut avoir de l'émotion, tous, il y a cette pression qui est importante. Et puis, il y a les décisions d'un certain nombre de gouvernements. La France en fait partie, l'Allemagne également. Aujourd'hui, pas l'unanimité en Europe, mais une grande partie. Il faut s'en féliciter. Les 28 vont se réunir à nouveau dans quelques jours, l'ensemble des représentants des gouvernements, des chefs d'État. On pourra, je l'espère, aller encore plus loin. Il faut absolument qu'on arrive à l'unanimité.
Laure Breton,
mais
de Libération.
Vous le dites très, très bien, les radicaux de gauche sont pour une Europe fédérale, c'est pas tout à fait la position développée par les socialistes, mais ça veut dire, par exemple, pour les réfugiés, développer une politique migratoire commune. Alors là, on touche à, on n'arrive même pas à, pour l'instant, s'entendre vraiment sur les règles budgétaires. Alors sur quelque chose qui touche à l'identité, qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition, justement, pour qu'on aille vers quelque chose de plus commun, vers une politique plus commune?
Alors, on pose toujours la question, effectivement, des migrants, comme si c'était toujours quelque chose de négatif. Là, effectivement, ça provoque une peur, ça provoque des réserves. En même temps, les migrations ont aussi des côtés positifs. On a connu des tas de vagues de migrations dans un sens comme dans l'autre, vers l'Europe ou vers les États-Unis, vers le Canada. Nous avons connu des périodes de guerre où on a été bien content d'être également accueillis.
Si
et je crois qu'on a quelque chose de positif là, on travaille sur la peur.
Si on a l'habitude justement de recevoir régulièrement des vagues migratoires,
mobilité,
pourquoi la France n'en accueille que 24 000 ?
En même temps, il n'y a pas, il faut le dire aussi, plus de demandes pour l'instant sur le volet français. Et il faut être très honnête par rapport à ça aussi.
Comment
et
vous
moi, je crois,
comment vous
honnêtement, ça s'explique tout simplement parce qu'effectivement, la France aujourd'hui rencontre un certain nombre de difficultés, que l'emploi est une véritable préoccupation pour les Français d'abord, que la France a aujourd'hui quelques difficultés budgétaires et vous voyez bien le travail du gouvernement pour redresser la barre, pour relever la France, pour connaître une meilleure croissance. Et dans ce moment un peu difficile, on est moins attrayant, soyons clairs, que d'autres pays comme l'est aujourd'hui l'Allemagne. Il y a aussi la question de la démographie. Il y a plus de démographie en France, une démographie plus positive qu'elle n'est en Allemagne. Donc il y a un contexte plus large. Mais aussi parce que la France, malgré tout, reste très solidaire. Malgré ses difficultés financières, vous l'avez sans doute vu dans les derniers résultats que nous avons par l'AFD, d'une enquête qui était faite auprès des Français, on voit bien que aujourd'hui, les Français sont encore plus solidaires qu'avant. Il y a plus 4%, plus 8% selon qu'on les questionne sur le volet aide publique au développement ou sur le volet lutte contre le dérèglement climatique. On voit bien que les Français ont compris que ce qui arrive aux portes de la France, qui arrive dans les pays du Sud, peuvent également les toucher. Ils ont compris que notre politique de développement, elle doit se faire effectivement en accompagnement des pays d'où viennent effectivement ces migrants. La migration n'est pas une cause, c'est une conséquence de pays qui aujourd'hui n'ont pas atteint un développement suffisant, des pays où il n'y a pas suffisamment de conditions de vie dignes, ou alors des pays où il y a la guerre et où on risque sa vie. Après, moi, j'ai tendance à dire, est-ce que si on meurt sous les bombes, on doit être mieux accueilli que si on meurt de faim? C'est une vraie question. Est-ce que
quelle est votre position justement sur cette question? Est-ce que un réfugié politique ou un réfugié de guerre égale un migrant économique?
Alors après, il y a le migrant économique. Plusieurs questions se pose. Vous savez, quand on reprend l'histoire de la crise en Syrie, on voit bien aussi qu'avant une crise politique, il y a eu une crise sociale. Et que cette crise sociale, elle venait d'une crise climatique, c'est-à-dire 2-3 ans de sécheresse en Syrie. Il y a aujourd'hui, quelle est la part de la crise climatique? Quelle est la part de la crise économique? Comment les crises économiques débouchent sur des crises politiques? Il y a aussi tout ça.
Oui, c'est-à-dire mais alors comment on fait, pardonnez-moi l'expression, mais c'est celle qui est employée par les politiques, comment on fait le tri de ces migrants à l'arrivée des frontières de l'Europe, puisque c'est l'intention, c'est le sujet qui sera discuté demain en Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, l'installation de ces hotspots. Comment on fait pour distinguer un migrant réfugié de guerre ou un migrant économique?
Alors on fait la différence effectivement aujourd'hui avec une liste de pays, avec un certain nombre de critères. Mais je voudrais aussi redire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que 80% des réfugiés ne viennent pas vers le nord. C'est des migrations du sud vers le sud. D'où l'importance aussi d'aider les pays du sud qui accueillent ces réfugiés. Je pense au Liban où je me suis rendue. J'ai visité un camp de migrants au Liban. J'ai participé avec bien d'autres pays au soutien au Liban en réannonçant l'aide de la France aux Libanais et à l'ensemble de la région. C'est plus d'un quart aujourd'hui des Libanais qui sont de résidents au Liban qui sont des réfugiés.
C'est le cas aussi. Cette aide est
aujourd'hui largement insuffisante. C'est-à-dire que là, on est passé à une échelle qui fait que la réponse ne peut plus être la même. Et le sujet, il n'est pas qu'européen. Il est international. C'est pour ça que je vous parle de migrants du sud vers le sud. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, illégales sans accueillent aussi des migrants. Il nous faut une politique de développement beaucoup plus forte. Et c'est le rendez-vous que l'on s'est donné à Addis Abeba sur la question du développement, ou à New York dans quelques jours sur la définition des objectifs de développement durable, où effectivement, de manière universelle, nous allons effectivement mettre en avant 17 objectifs de développement durable dans lesquels il y a bien une politique de développement réaffirmée avec des financements beaucoup plus importants réaffirmés à Addis Abeba en juillet dernier, y compris par la France, y compris par l'Europe. Et puis dernièrement, l'Europe prépare aussi une réponse financière, notamment au Sahel, un fonds fiduciaire de 1,8 milliard qui devra se mettre en place, tout simplement parce qu'il faut décaisser plus vite, il faut accompagner des projets concrets, il faut aider la jeunesse de ces pays du Sahel. Il faut de la formation, il faut de l'emploi, il faut de l'aide à la création d'entreprises, il faut être concret dans notre action.
Laure Breton,
ce que vous dites, c'est que l'Europe doit aider à empêcher de partir, en fait, doit aider à pour lutter contre cet afflux de réfugiés toujours plus grand, notamment en Méditerranée, pas côté Syrie. C'est ça que la France prône.
Il y aura toujours une mobilité, et la mobilité est positive. Mais si on interroge les réfugiés ou les migrants, ils disent qu'ils sont obligés de partir, qu'ils ont été obligés de partir, qu'ils partent pas de gaieté de cœur. Ils partent parce qu'en milieu rural, on peut plus cultiver sa terre et on meurt de faim. Ils partent parce qu'en milieu rural, justement, s'ils peuvent plus cultiver, c'est que la sécheresse a gagné du terrain, c'est que le désert a gagné du terrain. Et on revient à la lutte contre le dérèglement climatique. Ils partent vers des villes où il y a déjà énormément de réfugiés. Et donc, ensuite, dans d'autres pays du Sud. Et puis, il y a l'espoir qu'on peut effectivement faire naître au niveau européen aujourd'hui. Je crois qu'il faut accompagner ces pays à ce que partout il y ait de la dignité. Quand on sait effectivement combien d'Africains vivent sans électricité aujourd'hui, on peut se poser une vraie question. Mais c'est quoi des conditions dignes de vie ? Et en quoi l'Europe a sa place dans ce volet solidarité et responsabilité ?
Alors à propos de vraies questions, il y a des chiffres. L'aide publique au développement, l'objectif de 0,7% du PIB, la France en est loin, on est très loin, on est à la moitié.
À 0,37.
0,37.
Deux fois moins.
Donc, c'est bien, les belles paroles, il faut aider, mais on n'aide pas. On n'aide plus, on aide de moins en moins, c'est quand même un sacré reniement.
Alors, on n'aide pas de moins en moins parce qu'on n'aide pas de la même manière. L'aide publique au développement, c'est pas le seul geste de solidarité que peut faire la France.
C'est un objectif cadré,
clamé.
C'était une promesse de François Hollande en 2012.
Réaffirmé par la France à Addis Abeba, par ma voix, il y a quelques mois, et donc en juillet dernier, réaffirmé par l'Europe, avec d'ailleurs un objectif supplémentaire de 0,2% pour les pays les plus vulnérables ou les plus pauvres, les moins avancés, les PMA, c'est comme ça qu'on les appelle. François Hollande a rappelé que c'était son objectif. François Hollande a rappelé que dès qu'on allait reprendre le chemin de la croissance, nous allons reprendre la trajectoire des 0,7%. Le président François Hollande
fera 0,7 en 2017.
Fera un certain nombre d'annonces à New York ou à Lima sur l'engagement de la France, à la fois sur les questions
respecté.
Du climat ou sur les questions
vous
du
nous
développement,
dites, vous nous dites que la
et
France,
elle sera respectée.
François
et regardez,
Hollande annoncera la contribution de la France, c'est ça, à New York, devant les Nations Unies ?
À New York ou à Lima, c'est ce que j'ai dit. Mmh. Donc ça veut dire avant de toute façon la conférence de Paris, en décembre prochain. Et regardez, la loi sur le développement mise en place en 2015, elle reprend déjà les objectifs de développement durable, elle se redonne cet objectif de 0,7, elle reprécise dans quelles conditions on va reprendre ce chemin, elle reprécise les autres conditions de développement, l'outil que veut le président de la République en faisant que l'Agence française de développement venant s'adosser à la Caisse des dépôts et consignation nous donnera une force plus importante pour nous développer notre aide publique au développement. Alors, et plus largement le développement.
C'est une question
avec
un
du multi-partenariat. J'y tiens parce que à Addis Abeba, nous avons réaffirmé le multi-acteur.
Je m'arrête deux minutes, mais très rapidement, sur une question extrêmement technique. On ne sait pas encore si ça va être une fusion de l'Agence française de développement et de la Caisse de dépôt et consignation. Vous vous dites que ça va être une force. Certaines ONG, elles, redoutent que l'aide au développement française dépende finalement de la Caisse des dépôts et ils perdent un peu d'autonomie et d'indépendance de décision.
Alors, il y a aujourd'hui une mission qui a été donnée à un préfigurateur pour réfléchir à ces questions. Honnêtement, il y a à peu près 4 modèles qui se discutent. C'est quelque chose qui va prendre du temps et dans la pratique, on est sur un délai été 2016, septembre 2016. Donc, on a des rendez-vous qui vont ponctuer ce travail, des annonces qui se feront avant la fin de l'année, d'autres à l'anniversaire de la Caisse des dépôts et consignations, et puis une mise en place pratique pour 2016. Je sais, j'entends les ONG. D'ailleurs, elles ont rencontré le président de la République il y a une semaine et demie pour évoquer cette question. Moi, je rencontre sur ce même sujet demain les parlementaires parce que chacun doit être associé à cette réflexion. Elle commence cette réflexion sur le modèle qui sera choisi. Donc, chacun devra faire part de ses inquiétudes. Moi, j'ai envie de leur dire que c'est une force. C'est une nouvelle force que l'on aura en public.
Ce que vous dites, c'est que il n'y aura pas moins de dons à la place plutôt que davantage de prêts, c'est ça? C'est
ce une garantie. Ce que je dis, c'est qu'il y aura davantage de prêts et il faut même plus de dons. Et j'y veille. Je me bats pour et je suis là pour ça.
Nous allons parler de la COP21. On l'a un petit peu évoqué déjà, Annick Girardin. On a le sentiment, et on l'entend, François Hollande depuis quelques semaines dramatisé. Alors, c'est une manière de faire pression sur les pays réticents où il y a une vraie inquiétude côté français sur le succès de la COP21.
Alors, il y a toujours effectivement un certain nombre d'inquiétudes. La COP21, c'est pour nous un rendez-vous important. Moi, je crois que ce qu'on peut déjà affirmer, c'est qu'il y aura un avant et après Paris. Pourquoi ? Parce qu'on peut déjà constater que les lignes ont bougé. Les États-Unis ont bougé, la Chine a bougé. Alors, pression
l'Inde
des populations.
Ne bouge pas.
L'Inde n'a pas encore suffisamment bougé, mais les annonces ne sont pas encore faites. Et la négociation, ou du moins les entretiens, les rencontres se font encore. On peut, je crois, dire que la France est totalement mobilisée. Le président de la République, le Premier ministre, Laurent Fabius, qui sera président de la conférence à Paris, Ségolène Royal.
Ça ne suffit pas.
Et moi.
Parce que la France mobilisée, c'est la moindre des choses. Il y a toute la planète qui
doit se mobiliser. Elle est largement mobilisée. Elle est mobilisée aussi à travers toutes ses ambassades, parce que nous avons pris cette responsabilité de présidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à faire bouger les lignes. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons bien sûr pas seuls. Nous le faisons avec les Nations Unies. Les conférences, elles sont organisées par les Nations Unies. Nous allons en être président, mais elles sont organisées par les Nations Unies. Donc j'ai pas dit que la France faisait tout. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement était totalement impliqué. Des lignes ont déjà bougé. Par exemple, Paris 2015, c'est 4 piliers. C'est à la fois cet accord que l'on veut ambitieux et que l'on veut contraignant. C'est une première...
Sur la réduction des émissions,
des émissions de gaz à effet de serre. C'est une première, c'est-à-dire la contribution de chaque pays. La contribution de chaque pays, ça veut dire, et là il y a beaucoup de responsabilités qui viennent du Sud, la contribution de tous les pays du Nord et celle du Sud. Pour la première fois, tout le monde montre, sous une forme de plan, de déclaration, comment il compte participer à cette lutte contre le dérèglement climatique, comment lui compte à la fois réduire, mais aussi s'adapter et donc se développer. Il y a le financement,
on en a parlé.
Et pour finir, il y a l'agenda des solutions. Et moi, je veux parler de l'agenda des solutions parce que ce ne sont pas les États seuls. Nous y retrouvons les collectivités territoriales, nous y retrouvons les ONG, nous y retrouvons les citoyens.
Il faut que le privé aussi mette de
bien
l'argent.
Bien sûr, mais c'est évident.
Le fonds vert, pour l'instant, on n'en est presque nulle part. Personne.
Le fonds vert, c'est 10 milliards.
Oui, mais il y a
10 milliards à ce jour, oui. 1 milliard de la France, pour le rappeler.
Il en faut 10 fois plus.
Oui,
pardon,
100 milliards en 2020.
10 fois plus. Ah, mais c'est la question du financement, c'est très clair. À Paris, nous devons être en mesure de dire en comment va être constitué ces 100 milliards de dollars par année d'ici 2020 qui seront publics et privés.
C'est la plus grande difficulté, vous pensez, celle du financement, c'est ce que François Hollande semblait dire.
C'est une clé de la réussite de Paris. C'est la clé essentielle pour que les pays du Sud nous fassent confiance. Parce que la confiance a été à un moment donné perdue. Perdue à Copenhague et largement, ou du moins pas suffisamment largement récupérée. Et la question de la confiance avec les pays du Sud, c'est le financement.
Merci Annick Girardin. C'est la fin de la première partie de Mardi Politique avec la secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Une courte pause, le temps de prendre connaissance des dernières informations et on se retrouve juste après.
Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin, avec Laure Breton de Libération et Marc Perelman de France 24. Alors avant d'en venir à la politique française, Annick Girardin, la situation au Burkina Faso, toujours très tendue avec une réunion de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest en ce moment, aucune information d'infiltrée, pardon. Quel est le message de la France ce soir?
Alors, le message de la France, il a été rapide, il a été clair. C'est d'abord le refus du coup d'État, c'est évident. C'est le retour du président Kafando pour la période de transition.
Le président de transition.
Tout à fait, le président de transition. C'est le soutien à la médiation, puisque il y a une médiation en cours. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Nous soutenons effectivement cette négociation. Et puis, c'est l'annonce de la suspension de la coopération jusqu'à la reprise de la transition et l'organisation des élections. C'est-à-dire qu'on a été très clair. Nous avons soutenu ce gouvernement de transition. Moi, je me suis rendu au Burkina. J'ai pu constater effectivement sur place à ce moment-là que les choses se passaient bien, que les élections étaient en ordre de préparation, que le balai citoyen, j'ai rencontré le balai citoyen qui s'était battu pour plus de démocratie dans leur pays, avait montré qu'il savait gérer cette crise. Ces moments-là ont été intenses pour moi, une véritable volonté de démocratie au Burkinabé, enfin au Burkina Faso, pardon. Je l'ai senti, les Burkinabés sont fort dans leur volonté de plus de démocratie, je crois qu'on arrivera à une solution.
Marc Perelman.
Alors, vous avez mentionné les gens du balai citoyen. Eux et d'autres se sont élevés contre les propositions de la médiation de la CEDEAO, notamment...
Deux points.
Voilà. Deux points, et deux points très importants. La possibilité pour certains membres qui étaient proches de l'ancien régime de se présenter aux élections, et une forme d'amnistie pour la garde présidentielle, le fameux RSP. Est-ce que vous comprenez leur colère et leur inquiétude?
Alors, il faut savoir que ce refus, enfin ce coup d'État, il vient effectivement d'un rapport rendu sur la question de que faut-il faire de cette garde présidentielle, et c'est un peu ce qui a bousculé, c'est-à-dire qu'en clair, le rapport disait que c'est une garde qu'il fallait dissoudre. Donc là effectivement l'origine du problème. Après on y met des explications plus politiques. Et du coup, effectivement, il y a une réaction, et c'est normal, du balai citoyen qui a sa propre vision des choses, qui a porté ce combat, mais qui respectait en même temps le gouvernement de transition et qui attendait l'organisation de ces élections.
Donc je les comprends. L'amnistie, ça vous va?
Pardon?
L'amnistie, ça vous va ou pas?
Écoutez, nous n'avons pas effectivement à faire de l'ingérence. Je crois que les Burkinabés sont capables de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est leur choix. Ce que la France souhaite, c'est que nous sommes des pro-démocrates et nous soutenons effectivement ce retour à la démocratie à travers les élections. Il a été question de l'inclusivité de ces élections. Ouais. Sur l'inclusivité de ces élections, soyons honnêtes, il était évident qu'à un moment donné, il y aurait des débats. Moi, j'ai eu ces débats avec le balai citoyen, en les mettant effectivement un peu en garde sur ce qui allait pouvoir être provoqué à travers un certain nombre de décisions. Mais les décisions qui allaient être prises étaient entièrement respectées par la France. On n'a pas à faire de l'ingérence. On a des échanges avec nos partenaires. Moi, j'ai débattu avec la société civile. J'en suis toujours heureuse. Quand je vais dans l'ensemble des pays africains, je rencontre la société civile. Et là, je l'ai déjà fait. Mais je rappelle que la France est respectueuse des décisions du pays et du gouvernement en place.
Mais ce que vous semblez indiquer là, de votre conversation avec ces gens-là, vous semblez les avoir mis en garde quand même. Attention, si vous excluez de façon trop vaste, notamment les gens de l'ancien régime, ça risque de créer des mécontentements, des tensions, et peut-être ce qui est arrivé. Donc c'est quand même une façon de dire que la France préférerait une solution inclusive.
Non, la France conseille à ses partenaires quand elle est dans un échange et elle a rien d'autre à faire que d'être dans l'échange et de partager des conseils ou sa vision des choses. Ensuite, les choses se font comme le décident les pays eux-mêmes. Nous sommes des partenaires. Ce que la France a dit fermement, et François Hollande l'a dit, c'est le respect de la démocratie, c'est le respect des constitutions, au-delà, à l'intérieur, quand les choses se font de manière transparente, que c'est décidé, il n'y a rien à faire comme commentaire.
Vous voulez des élections quand ?
Alors nous voulons des élections telles qu'elles étaient prévues, c'est-à-dire
c'était avant, le 11 octobre. Avant, hein,
voilà.
Vous pensez que c'est encore jouable ?
Le plus rapidement possible. On ne peut pas commencer à donner aujourd'hui des délais. Peut-être faudra-t-il le faire. Mais pour l'instant, il faut que ces élections se passent le plus vite possible.
Annick Girardin, vous êtes la secrétaire d'État au développement. C'est un nouveau titre. C'est apparu en 2012. Jusqu'à 2012, ce ministère s'appelait le ministère de la coopération. Il y avait clairement une volonté de rupture avec ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore la France-Afrique. Mais on a un peu l'impression, s'il n'y a plus de ministre de la coopération, on a l'impression que c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui tient ce rôle aujourd'hui.
Alors, quelquefois, on me dit, c'est Jean-Yves Le Drian, effectivement, le ministre de la Défense. D'autres fois, on me dit, ça va être Ségolène Royal, parce qu'elle avait fait une mission, ou elle a fait une mission sur le climat. Mais l'Afrique n'a pas, aujourd'hui, un ministre en titre. Non, le ministre de la coopération, c'est fini. L'Afrique est un continent avec des pays
partenaires. Non, mais Jean-Yves Le Drian, on a l'impression qu'il occupe un peu ce rôle-là, avec ses contacts privilégiés avec un certain nombre de chefs d'État africains. Il est très régulièrement en Afrique.
La France y est très engagée militairement. Je suis aussi très régulièrement en Afrique, sauf que vous en parlez peut-être moins. Et je fais à la fois les pays de l'Ouest, les pays de l'Est, les pays du centre de l'Afrique. Je suis régulièrement sur site. Je rencontre régulièrement nos partenaires africains. Et moi, je me félicite que l'ensemble des ministres français puissent avoir des partenariats, et c'est le cas, avec nos partenaires africains. La France-Afrique, elle est derrière nous. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir un ministre de l'Afrique. C'est la France, avec ses partenaires, qui, selon les thèmes, a effectivement un ministre du développement, un ministre de l'éducation, un ministre de l'écologie, un ministre de la défense, qui se rend en Afrique. On est des partenaires. Pourquoi on aurait une manière de travailler différemment avec l'Afrique qu'avec tous les autres pays ? À partir du moment où on a une autre vision, celle de François Hollande.
Annick Girardin, la ministre du Développement et l'invitée de Mardi Politique. On en vient à la politique française avec celui qui met régulièrement le feu à la majorité, Emmanuel Macron. Il est dans l'œil du cyclone des socialistes après ses critiques sur le statut des fonctionnaires. Le ministre de l'Économie est un problème. C'est d'ailleurs ce que disait ce matin le député socialiste frondeur Laurent Baumel au micro de Marc Potvin.
Emmanuel Macron a sa ligne politique, il est absolument convaincu d'avoir raison. Il procède d'une forme de certitude qu'on connaît bien en France, qui est celle d'une certaine élite. Voilà, et aujourd'hui, ce hiatus, malheureusement, entre ce que pense une partie des élites et le ressenti des couches populaires et moyennes du pays, il est un obstacle pour la réussite de la gauche au pouvoir.
Emmanuel Macron, un obstacle à la réussite de la gauche, vous êtes d'accord avec ça ?
Écoutez, moi, je suis là pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt général. J'ai des missions qui sont larges, qui m'emmènent effectivement dans beaucoup de parties de ce monde. Et je peux vous dire que l'image de la France est toujours aussi bonne que nous avons des partenaires qui apprécient la manière dont on travaille avec eux. Et ça, c'est mon travail. Ensuite, bien sûr, je suis membre d'un gouvernement qui doit être uni, soudé. Qui doit porter ensemble des projets, et il arrive effectivement qu'un certain nombre de ministres fassent évoluer un certain nombre de problématiques et posent des choses.
Moi, je crois pas qu'il faut. Mais là, il s'affranchit totalement des tabous de la gauche quand il parle des fonctionnaires ou des 35 heures en pleine rentrée.
C'est des clivages qui sont artificiels. C'est-à-dire que nous avons des débats à certains niveaux. Nous devons faire évoluer cette France, la réformer. C'est l'objectif qui est.
Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire et de braquer donc le peu de gens qui faisaient encore confiance? Enfin, les sondages sont là. Il y a quand même très peu.
Je crois que les Français nous demandent une chose. Les Français nous demandent d'être au travail, au service des Français, au service de l'intérêt général. Le volet politique nous oblige à être soudés pour lutter contre le Front National. Une cohérence, c'est indispensable. Une efficacité, c'est un autre élément indispensable. Après, honnêtement, il y a un jeu qui se fait entre les politiques et les médias. Et moi, je lancerai ni la pierre aux politiques, ni la pierre aux médias, mais peut-être aux deux en même temps. C'est-à-dire que les petites phrases, vous les répétez tellement en boucle que le politique qui veut veut être le plus entendu, et ben il se prête quelquefois à certaines petites
ses
phrases.
Ses propos sur les 35 heures étaient tenus en public.
D'agression ou de critique à mon ami du gouvernement Emmanuel Macron, parce qu'au contraire, il y a un certain nombre de projets ou de visions qui sont les mêmes que celles de la radicale de gauche que je suis.
Alors, devant le congrès du Parti radical de gauche, dimanche, à Montpellier, le Premier ministre Manuel Valls était là et on va écouter ce qu'il a dit.
Réformer, nous l'avons fait avec la loi croissance et activité, défendue avec talent par Emmanuel Macron. Et quand on a un ministre talentueux qui œuvre pour notre économie et pour notre industrie, on le soutient et on le soutient jusqu'au bout.
Voilà, Emmanuel Macron soutenu, et c'est un soutien très appuyé de Manuel Valls, alors qu'il venait d'être cadré par François Hollande. On comprend pas très bien, on comprend pas du tout même à quoi joue François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron.
Écoutez,
est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Alors moi, je suis pas là pour éclairer sur ces questions et sur éventuellement des divergences. Moi, je les sens pas. Pour moi, il n'y a pas de divergence et il n'y a pas d'incohérence dans la politique que l'on mène. Nous avons dans cette rentrée politique des sujets qui sont extrêmement graves. La question climatique, on en a parlé. La question du terrorisme, la question des migrants, la question donc des réfugiés et migrants, la question du chômage, la question de l'emploi. Et c'est là où la gauche doit rester unie. La gauche doit rester unie pour apporter des réponses en français sur leurs questions, sur leurs problématiques. Moi, je reste là-dessus. Je suis quelqu'un qui travaille en équipe. L'équipe France, pour moi, elle a de la valeur. C'est comme ça que nous devons avancer. Ça n'empêche pas que chaque ministre puisse, sur ces sujets, émettre un certain nombre d'idées, d'être un peu
est-ce
peut-être innovant.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est ministre de la fonction publique
et de l'emploi?
Oui, mais ça ne l'interdit pas de donner un certain nombre de donner sa vision des choses. Ça ne lui interdit pas.
Oui,
après,
même
ça tourne
si
en boucle.
Vous êtes, même si sa vision trouble la gauche,
parce qu'on est en période de
quitte à troubler la gauche à moins de 3 mois des régionales qui s'annoncent extrêmement compliquées pour vous, on désoriente les lecteurs.
Non, moi je
on fait
je
fuir les
pas
partenaires.
Le PRG, je l'ai rappelé. Je le rappelle régulièrement. Je le redis sur mes dossiers comme sur l'ensemble des dossiers, il faut de la cohérence, de l'efficacité. En même temps, il faut réformer la France et réformer n'est jamais quelque chose de facile. Réformer parce que c'est comme ça, parce que en France comme ailleurs, on n'aime pas le changement. Ça provoque effectivement des blocages.
Il y a un président qui a été élu sur le changement.
C'est compliqué. Oui, non, mais tout à fait.
Breton,
mais ça n'empêche pas ensuite que quand le changement il est juste, il concerne l'individu, il y a toujours une petite réaction. Et ça, c'est une question de pédagogie, de communication, et il faut savoir le faire de manière cohérente.
Laure Breton,
alors, on vient de l'entendre, Manuel Valls est venu au congrès de votre parti, de votre formation politique, le Parti radical de gauche. On parlait de ces régionales, le PRG est le dernier partenaire des socialistes. Il n'y a aucune région où il y a des accords avec le reste de la gauche. Donc comment se présentent ces régionales? On est à 2 mois des régionales. Comment vous pensez que la majorité peut s'en sortir? Est-ce que c'est le dernier clou dans le cercueil de la gauche hollandaise ou est-ce que vous pensez qu'un sursaut est possible?
Il est évident qu'il y a une nécessité de sursaut et c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent que la gauche s'unisse à nouveau. C'est urgent que la gauche signe des accords.
Le référendum de Monsieur Cambadélis, c'est une bonne idée?
Alors, c'est le choix qui est fait. Moi, là-dessus, je ne sais pas si c'est un référendum qu'il fallait. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, soit on veut faire barrage au Front National, soit on veut pas. Et si on veut faire barrage au Front National à gauche, il faut s'unir. Et je suis quelquefois un peu choquée, c'est ma manière de fonctionner, du manque de loyauté entre certains partis de gauche. Aujourd'hui, les radicaux de gauche sont très loyaux, sont présents, ont signé un accord d'ailleurs qui n'est pas finalisé avec le Parti Socialiste, parce qu'il reste quelques débats encore sur le terrain.
Les écologistes manquent de loyauté, Annick Girardin ?
Ah bah moi j'estime aujourd'hui oui, je voudrais des écologistes qui reviennent au gouvernement, je voudrais des écologistes qui portent les combats qu'il faut mener aujourd'hui pour redresser la France.
C'est possible.
Ils ont toute leur place et doivent pouvoir avoir leur place à s'exprimer au sein
possible.
De ce gouvernement.
C'est encore possible.
Eh ben moi je le souhaite. Moi, je le souhaite. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je suis là pour me battre pour la France. Je suis pas là pour me battre pour l'avenir d'un PRG. Je suis aujourd'hui, bien sûr, avec mon parti, aux côtés de François Hollande.
Mais quand certains des partenaires du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche, comme une partie des écologistes ou du Front de Gauche, disent « c'est la politique économique du gouvernement qui nous pose problème, on peut pas aller à des élections sur cette ligne-là », est-ce que vous l'entendez, cet argument ?
Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a des espaces pour débattre. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est à l'intérieur des groupes politiques. Il y a des espaces de démocratie pour débattre. Mais il y a un moment donné où il faut se décider. Et les Français, ils attendent des choix. Ils attendent que leurs élus soient responsables. Ils attendent que leur politique soit responsable. Et qu'à un moment donné, on passe à cette phase. Soyons responsables, il faut s'unir face au Front National. Il faut s'unir pour les régionales. Il faut, après les régionales, un gouvernement qui puisse retrouver d'autres participants, d'autres partis politiques. Je suis pour une entrée des Verts au gouvernement. Je suis pour un maintien fort du PRG au sein du gouvernement. Je suis pour des débats là où ils doivent avoir lieu.
Donc un remaniement gouvernemental après les régionales.
À un moment donné, un gouvernement effectivement, qui soit composé de d'autres composantes politiques.
La secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin, est l'invitée de Mardi Politique.
Mardi Politique.
Annick Girardin, dernière séquence de l'émission, question courte, réponse courte, c'est
si
parti. Quand vous avez été nommée, votre crainte, on s'en souvient, c'était votre niveau en anglais. Est-ce que vous avez fait des progrès depuis ?
Alors, j'ai toujours eu un complexe par rapport à ma difficulté à m'exprimer en anglais. En même temps, je vis à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai toujours vécu, j'ai écouté toutes les émissions en anglais et je comprends complètement tout ce qui se passe autour de moi.
Laure Breton.
Est-ce que vous savez où vous serez le soir du 6 mai 2017 ?
Non, je le sais pas.
Où est-ce que vous aimeriez être ?
J'aimerais être chez moi. Chez moi, puisque j'aurai effectivement là aussi un combat à mener.
Marc Perelman.
Est-ce que c'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon est une île radicale ?
Saint-Pierre-et-Miquelon est une île radicale. Si on le calcule au nombre d'encartés politiques, Saint-Pierre-et-Miquelon est une île radicale.
La seule en France ?
Peut-être, mais j'en suis fière.
Depuis 3 ans, Jean-Michel Baillet, le patron du PRG, hein, votre parti, fait des pieds et des mains pour devenir ministre. Pourquoi est-ce qu'il veut à ce point redevenir ministre, puisqu'il avait été il y a quelques années il est jaloux de vous, vous croyez ?
Ah, je crois pas, vraiment. La présence des 3 ministres ou des 2 secrétaires d'État et d'un ministre au gouvernement, nous la devons à Jean-Michel Baillet. Nous la devons aux radicaux de gauche. Au-delà, je la dois bien sûr à mes électeurs, parce que si je n'avais pas été députée, je ne serais pas là. Jean-Michel Baillet a le souhait de participer à ce pays que nous voulons réformer, à cette préparation de cette France plus innovante, plus moderne, qui est dans ce 21e siècle et qui relève l'ensemble des défis.
Merci, réponse courte, Laure Breton.
Vous avez depuis 1 an et demi parcouru, vous le disiez, l'Afrique d'Est en Ouest, le monde entier. Quel est le moment le plus fort que vous avez vécu depuis que vous êtes ministre ?
Alors sans doute les moments autour de la lutte contre Ebola, d'inaugurer un centre, d'être parmi les malades, d'être surtout aux côtés de tous ceux qui viennent des ONG et notamment ceux qui ont travaillé en direct dans ces centres. C'est devenu mes héros parce que c'était des moments durs, c'était des moments difficiles et ils étaient là et ils jouaient leur vie et j'étais fière d'être à leur côté.
Est-ce que c'est vrai que vous avez eu peur à un moment d'être contaminé vous-même par Ebola ?
Oui, j'ai eu quelques heures de crainte, oui, quand je suis rentrée de ma première visite.
François Hollande, il sera candidat en 2017 ?
Je le souhaite.
Pourquoi ?
Je souhaite parce que moi j'ai toujours soutenu la candidature de François Hollande, y compris d'ailleurs avant l'idée des primaires à gauche. Je crois honnêtement que la direction prise aujourd'hui par François Hollande montrera, et avant la fin de ce mandat, qu'il a fait les bons choix pour la France et qu'il serait souhaitable qu'on puisse effectivement aller jusqu'au bout de ces réformes que nous portons sur un second mandat.
Laure Breton.
Non, je pique une question à Florent Guignard. C'est plus sympa pour vivre à Paris ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ?
c'est sympa les deux. En même temps, mon cœur, ma vie est à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vous arrivez à y retourner.
Et dès que je peux y retourner, ouais. J'y retourne.
C'est la fin de Mardi Politique avec la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin, issue donc élue de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au générique de cette émission, Laure Breton de Libération, Marc Perelman de France 24, Mathias Golchani à la réalisation et Audrey Yatoni à la programmation. Alors la politique sur RFI, c'est aussi l'invité du matin. Demain matin, ce sera Éric Woerth. Et puis le dimanche, Dimanche Politique, décryptage de la semaine, c'est à 17h10 et 20h10 TU. La semaine prochaine, Mardi Politique recevra Marine Le Pen. Bonne soirée à tous.